Bonsoir chers amis, nous continuons donc notre cours en patristique et nous abordons aujourd'hui un autre très très grand personnage, je veux dire Saint Basile le Grand. Nous changeons complètement de cadre géographique et je vous mettrai sur le site d'ailleurs une carte. Bon, ce qui correspond à la Turquie actuelle, vous voyez. Et vous verrez, en gros, les principaux lieux où se déroule la vie de ces Cappadociens, puisque c'est en Cappadoce, évidemment, que ces personnes, ces grands saints sont nés. Et en premier lieu, Saint Basile. Là, je vous ai souligné en rouge trois lieux qui sont assez éloignés les uns des autres, mais qui vont revenir dans le cours. L'un, évidemment, c'est Césarée en Palestine. L'autre, c'est Césarée aussi, mais en Cappadoce. Donc il ne faut pas confondre l'un avec l'autre. Et le troisième, c'est un lieu qu'on appelle Néo-Césarée du Pont. Parce que vous voyez qu'il est situé dans une région qu'on appelle le Pont Euxin, c'est-à-dire en fait au bord de la mer Noire. Donc, Saint Basile le Grand, les dates de Saint Basile, c'est environ 329-330 jusqu'en 378. Saint Basile est né à Césarée, mais sa famille a été marqué par toute une histoire. Sa mère, donc, est originaire de Césarée de Cappadoce, donc ici. Et cette région avait constitué un grand royaume que les Romains ont intégré à l'Empire. Et le royaume est devenu une province qui elle-même a été plus ou moins démembrée. Le nord a été érigé en province, c'est-à-dire celle du pont, et le nord-est est devenu la province d'Arménie. C'est une région qui a été évangélisée très tôt. Et Saint-Pierre, d'ailleurs, dans sa première lettre, salue les chrétiens qui vivent dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Les chrétiens, donc, sont implantés dans la région depuis très longtemps. Ils vont payer aussi un tribut très lourd aux persécutions. Dans toute cette région, donc, il y a une ferveur, une foi profonde et aussi un mouvement monastique qui va d'ailleurs se développer et s'aimer. Par exemple, un très grand nom du monachisme, c'est Saint Sabas, que vous connaissez sans doute, qui naquit en 432 près de Césarée en Cappadoce et qui va émigrer en Palestine. Je voudrais faire juste une petite remarque. La région est influencée par une forme de christianisme qui est assez radicale. Je vous renvoie pour cela à la première conférence que j'ai faite sur Évagre le Pontique et Saint Jean Cassien. À la première conférence, donc qui était sur Saint Jean Cassien essentiellement, je parlais du contexte et la différence qu'il pouvait y avoir entre la Syrie d'une part et l'Égypte d'autre part. Et ces différences sont sensibles. La Syrie, le christianisme syriaque, de Syrie a été marquée par une radicalité très profonde et parfois même des ascèses excessives, mais on en reparlera. Donc vous avez une région très anciennement chrétienne, vous avez une région où la ferveur est très grande et où le mouvement monastique est radical. Vous avez aussi une institution qui est particulière à la région, qui est celle du corps évêque. Le corps évêque, c'est H-O-R-E, corps évêque, est une sorte d'évêque de campagne qui qui régissait une dizaine de paroisses rurales. Effectivement, nous sommes donc dans une région où il y a assez peu de grandes villes, mais où les habitats sont relativement dispersés, et donc on avait besoin d'instituer des corps évêques. Le père de Basile lui-même est originaire de Néo-Césarée du Pont, donc ici, qui avait été colonisé par des Grecs depuis très longtemps, qui ensuite a été occupé par des Romains. Et il y avait tellement de chrétiens dans la région que Pline le Jeune, par exemple, qui était responsable, était gouverneur de la région, hésitait à persécuter les chrétiens parce qu'ils étaient trop nombreux. Malheureusement, les persécutions sous Dioclétien vont être extrêmement dures. Dioclétien, donc, comme vous le savez, va se lancer dans une persécution extrêmement violente qui va se prolonger quasiment jusqu'à l'édit de Milan en 313. Et une partie de la famille de Basile va se réfugier dans la forêt, dans les bois. Et ce séjour forcé va durer plusieurs années, de 306 à 313. Donc voilà un peu, si vous voulez, le contexte dans lequel se situe Basile. Et il semble bien qu'il soit né à Césarée de Cappadoce. Il fut élevé par sa grand-mère, qui s'appelait Macrine l'Ancienne. Macrine l'Ancienne avait profité d'un enseignement, celui de Grégoire le Thaumaturge, c'est-à-dire celui qui fait des miracles. Grégoire le Thaumaturge, qui est un grand saint, qui était né païen, et qui s'est installé à Césarée, capitale de la Palestine, donc cette fois-ci cette Césarée-là, et il va y rencontrer Origène. Et Grégoire le Thaumaturge va être extrêmement influencé par l'enseignement d'Origène et il va se convertir au christianisme. Il va être en fait le premier évêque de Néo-Césarée. Son rayonnement va être extrêmement fort et Grégoire de Nice, donc qui est le frère de Saint Basile, composera un long panégyrique de Grégoire le Thaumaturge. Le père de Basile lui-même était rhéteur, c'est-à-dire une sorte de professeur de faculté, et il va donner à Basile un enseignement extrêmement complet. Émilie, la mère de Basile, eut 10 enfants, dont 3 furent évêques. Vous avez Saint Basile, Saint Grégoire de Nice et Pierre de Sébaste qui sera évêque. L'aînée de ses filles est connue, elle est sous le nom de Macrine, et elle va devenir un modèle de vie ascétique. Ce qui est intéressant pour Basile, c'est qu'il va avoir une éducation extrêmement sérieuse, il va faire des études très poussées à Césarée, Constantinople, à Athènes. Et d'ailleurs, c'est lors de ses études qu'il va rencontrer son grand ami, son compagnon, Grégoire. Grégoire que, dans la tradition orthodoxe, on appelle le théologien, qui est connu en Occident sous le nom de Grégoire de Nazianze, bien qu'il n'ait jamais été évêque de Nazianze. Et à Constantinople, Basile va fréquenter un grand recteur de l'époque, dont on a déjà parlé, qui s'appelait Libanius. Basile va, disons, se faire remarquer par le fait qu'il était particulièrement brillant en rhétorique, grammaire, philosophie, et aussi par sa curiosité, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas aux sciences, disciplines traditionnelles, mais il s'intéresse à des sujets inhabituel pour l'époque. Par exemple, il s'intéresse à la médecine. Il quitte Athènes et il va revenir en Cappadoce. Il va revenir en 356. Certains disent qu'à ce moment, il aurait enseigné, mais ce n'est pas la chose sûre. Et à ce moment-là, on voit très bien que Basile n'est pas satisfait de la vie qu'il a menée, ni de l'enseignement qu'il a reçu. Il dit, par exemple, dans une lettre, « J'ai perdu toute ma jeunesse dans le vain travail auquel je m'appliquais pour acquérir les enseignements de la sagesse qui a été déclarée folle par Dieu. » C'est-à-dire qu'il est extrêmement conscient de la vanité de cette sagesse. Or, après la mort de son père, Basile l'Ancien, sa mère s'est retirée dans sa région natale du Pont, donc par ici, et elle avait un domaine assez grand, dans un lieu qu'on appelle Annecy, A-2-N-E-S-I. Macrine, la jeune, vivait auprès de sa mère. Après avoir été fiancée, son fiancé étant mort, elle décide de rester vierge et de demeurer auprès de sa mère en l'aidant dans ses tâches ménagères. Et d'autres frères de Basile vont rejoindre la vie ascétique et Basile lui-même fera partie de cette communauté ascétique. C'est là où se situe aussi l'influence d'un personnage très important qu'on appelle Eustathe de Sébaste. Sébaste, S-E-B-A-S-T-E. Eustathe est né vers 330. Il est marqué par ce christianisme radical et qui sera d'ailleurs critiqué par des évêques lors d'un synode. Eustathe, par exemple, méprise le mariage, condamne les femmes mariées, refuse l'accès au royaume de Dieu, pousse les femmes mariées à abandonner leur mari, les parents à délaisser leurs enfants et les enfants à ne pas s'occuper des parents, etc. Il s'habille avec un manteau grossier qui était celui des philosophes cyniques. Les femmes se coupent les cheveux, s'habillent comme des hommes et les esclaves sont appelés à résister à leur maître. Et ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'on voit se dessiner un mouvement qui va par la suite avoir une très grande importance. C'est le mouvement des Messaliens. C'est un mouvement très radical qui est fondé sur une ascèse rigoureuse, qui distingue ceux qui prient de ceux qui travaillent, qui refuse de reconnaître la hiérarchie de l'Église, qui n'est pas vraiment intégrée dans l'Église, qui refuse aussi les sacrements et qui explique que lorsque l'Esprit se manifeste, lorsque le don de l'Esprit Saint se manifeste, il se manifeste de façon sensible et à ce moment-là, la personne en quelque sorte est pneumatophore et donc elle ne peut pas revenir en arrière. Tout ça, disons que ce sont des choses que l'on va retrouver dans le mouvement messalien plus tard. Mais on voit là, avec Eustathe de Sébaste, que ces choses étaient déjà plus ou moins présentes dans ces milieux. Et comme je vous l'ai dit, lors de la première conférence que j'ai faite dans le cours sur Saint Jean Cassien, j'avais expliqué un petit peu la différence qu'il y avait entre la Syrie et l'Égypte. Et la Syrie a toujours été marquée par une forme, disons, d'ascèse et de christianisme très radicale, et les évêques devront, en quelque sorte, redresser un petit peu tout ça. Grégoire de Nice, dans sa vie de Macrine, défendra la vie menée par la communauté monastique de Annecy, c'est-à-dire la petite communauté auquel appartenait Basile. Bien sûr, dans cette communauté, on ne défend pas les thèses d'Eustathe, même si il y a une certaine amitié et respect qui lie Basile et Eustathe, mais Basile est méfiant à l'égard des excès d'Eustathe. Il n'y a pas de mépris pour les gens mariés. Il parle de la chasse, de l'aide apportée par quelques vieillards, Basile donc a une toute autre conception en fait de la vie monastique et il va garder ses distances avec Eustathe. Et en 357, Basile va se faire baptiser. Et donc c'est le baptême était tardif et cela arrivait assez souvent. Pourquoi ? Parce que le baptême était conçu très sérieusement. C'est-à-dire qu'il était quasiment impossible de faire pénitence après le baptême. C'était, disons, des exceptions. Et donc, les personnes avaient tendance à retarder le baptême. Soit, disons, pour être vraiment prêtes à recevoir le baptême, soit, même certaines allaient même encore plus loin, et recevaient le baptême pratiquement au moment de leur mort. Et il est à ce moment-là très attiré donc par la vie monastique et il va se lier donc à cette communauté d'Annecy, mais en même temps on voit qu'il a bénéficié d'une éducation extrêmement poussée. Le baptême qu'il va recevoir va lui faire une très forte impression. Il parle, par exemple, dans son traité sur le baptême, d'un pouvoir de renouvellement qui a une cause ineffable cachée dans le mystère et qui apporte aux âmes un magnifique salut. Et ça, c'est la tradition chrétienne. C'est-à-dire que le baptême est une nouvelle naissance. C'est conçu comme étant la vie en Christ. Basile consacrera un traité entier au baptême. Ce baptême va être célébré par l'évêque de Césarée dans l'ancienne église. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est toujours l'évêque qui baptise, et lui seul. Et à son époque, il faut voir aussi que très nombreux sont ceux qui se convertissent. Je vous ai dit aussi qu'il y avait une institution originale qui était celle des corps évêques, c'est-à-dire des évêques de campagne, en quelque sorte, qui avaient plusieurs paroisses sous leur juridiction, qui pouvaient aussi baptiser et célébrer les sacrements. Pour Basile, ce baptême est un engagement dans une nouvelle vie. Il dira lui-même, il s'agit d'abord de briser avec la vie passée. Or, c'est impossible à moins de renaître de nouveau, selon la parole du Seigneur, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Car la régénération, comme le nom l'indique, est le principe d'une seconde vie. Donc il a une conscience extrêmement profonde, disons, du sens de ce baptême. Le chrétien, comme il le dira, s'est engagé. C'est un engagement, c'est un pacte inviolable. Il doit suivre le Seigneur, c'est-à-dire vivre tout entier pour Dieu en accomplissement entièrement ce qu'a dit l'apôtre. Le baptisé, dit-il, devient entièrement étranger à ceux qui vivent selon le vieil homme. En même temps, il se demande, il s'interroge un peu sur cette vie ascétique. Visiblement, il n'est pas convaincu par la radicalité que propose Eustathe, tout en respectant quand même sa personnalité, mais il va chercher un petit peu à s'informer. Et on sait par exemple qu'il s'est rendu en Syrie et en Égypte, et en Palestine d'ailleurs aussi, et qu'il va s'informer en quelque sorte sur les différentes formes de la vie monastique qu'il y a dans ces régions. En Palestine, il va rencontrer un ermite qui s'appelle Hilarion, et en Syrie, il va se lier d'amitié avec Akas, A-C-A-C-E, qui deviendra évêque de Bérée. Donc il va revenir riche d'une expérience très grande, et il va pouvoir, en fonction de cette expérience, mettre sur pied ou lancer une communauté ascétique. Première chose, c'est le renoncement à la fortune personnelle. Le renoncement à la fortune personnelle est la condition pour Basile de tout engagement ascétique. Et il faut bien dire que l'époque de Basile est marquée par une très grande disparité dans les richesses, on en a parlé tout à fait au début, disparité entre les pauvres et les riches. Et d'ailleurs, Basile faisait partie des riches. La parole du Christ au jeune homme riche, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et viens, suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux, revient souvent chez Basile. Il faut bien remarquer, si vous voulez, que c'est la même parole qui va frapper saint Antoine. Il y a une certaine similarité là. On voit, si vous voulez, que les vocations, en particulier les vocations monastiques, sont souvent marquées par le fait que la personne qui veut s'engager dans cette vie, entend une parole qui retentit profondément chez elle. Et saint Antoine, c'est cette parole-là. Saint Pacôme, ça sera différent. Saint Pacôme, lui, va être marqué par la charité fraternelle. Il doit partir, voilà ce qui se passe. Saint Pacôme doit faire son service militaire, ce qui n'était pas une petite chose à l'époque, ce qui durait plusieurs années. Et il était plus ou moins enchaîné, enfin il était plus ou moins prisonnier et gardé. Et il voit des gens qui viennent à lui et lui donnent à boire. Et il trouve ça extraordinaire comme comportement et il se demande, mais qui sont ces gens? Il n'était pas chrétien à l'époque. Hein. Et donc, on va le dire, ce sont des chrétiens qui font ça. Donc là, c'est la charité fraternelle qui va le frapper. Et c'est pour cela aussi que vous aurez, par exemple, pour cela, et donc ça va influencer sur le fait que, par exemple, Pacôme mettra l'accent sur l'organisation communautaire autour d'une personnalité spirituelle et charismatique qui est un abbé. Les gens sont regroupés par maison et par métier. Saint Antoine, c'est différent, c'est plus individuel. Et donc, Basile a bénéficié de toute cette expérience, de toute cette richesse, et il est assez influencé, disons, par Pacôme aussi, dans cet aspect communautaire. Donc, il va s'installer dans cette communauté à Annecy, dans une vaste propriété dont on vient de parler, et il préconise de vivre en philosophe. C'est un peu le terme qu'on employait à l'époque, c'est-à-dire que la vie ascétique était conçue comme une forme de vie philosophique. Et effectivement, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la philosophie ou les philosophes n'étaient pas des gens qui se réunissaient dans des cafés, mais c'était des gens qui avaient une pratique ascétique. Et c'est quelque chose d'assez important, et ça a été bien vu par Pierre Hadot, par exemple, dans son analyse de la philosophie antique. Et chez les pères, le terme désigne une forme de sagesse et de perfection dans la vie chrétienne. Et à partir de 358, Basile va composer ses règles monastiques qui vont être élaborées progressivement en fonction de son expérience. Ici se situe aussi un recueil assez particulier, la Philokalie. La Philokalie, ça veut simplement dire à l'époque une anthologie. Anthologie, évidemment, si vous décomposez, ça veut dire une sorte de bouquet de fleurs. Philokalie, ça peut vouloir dire aussi l'amour de la beauté, mais c'est pas ça du tout dont il s'agit. Il s'agit de recueil de textes. Et la Philokalie dont il va s'occuper, alors, est-ce qu'il s'en est occupé lui personnellement ou pas? C'est une question qui est soumise à débat. En tout cas, il va être au courant, il va connaître cette Philokalie qui est celle d'Origène, qui est la Philokalie importante, et avec, en particulier, il va reprendre Donc, on va reprendre dans cette philokalie une partie d'un livre du traité sur les principes qui traite de l'exégèse de l'écriture, la méthode exégétique. Et on va ajouter un ensemble d'extraits correspondant à des questions de foi et de doctrine. Marguerite Arle, qui a publié la philokalie d'Origène, explique que ce n'est pas Basile directement qui serait, mais enfin, c'est dans le milieu ou à côté, etc. Bon, quoi qu'il en soit, tout ce milieu a été marqué par l'enseignement d'Origène. Les querelles doctrinales font rage. C'est vraiment une époque pénible pour ça. Vous savez que on a déjà parlé, on a expliqué qu'il y avait ceux qui expliquaient que le Père et le Fils ne sont en rien semblables, ils sont dissemblables, les anoméens. Il y avait ceux qui expliquaient qu'ils sont juste semblables, homéens, et ceux qui expliquaient qu'ils avaient une essence commune, homoousios, donc, qui est celle, la doctrine de Nicée, et qui est la doctrine qui est défendue par Basile. Vous savez, ça peut sembler rétrospectivement une querelle un peu bizarre, mais quand on regarde de près, on voit, on comprend pourquoi, et on y reviendra. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, le mot « oussia », qu'on traduit maintenant couramment par essence ou par substance, et les mots « hypostasis »,« hypostase », que l'on traduit aussi par « personne », n'étaient pas perçus clairement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de définition claire de ces mots. Et donc il y avait toute une série d'ambiguïtés sur lesquelles on va revenir quand on parlera de l'aspect doctrinal de la querelle. Il va y avoir des conciles, il va y avoir des condamnations. Heureusement, Basile, n'occupant aucune fonction officielle, va passer au travers de toutes ces condamnations. Et en 362, c'est la mort de l'évêque de Césarée. Basile, donc, va devenir prêtre. Eusèbe va remplacer l'ancien évêque de Césarée, mais après les dissensions avec lui, Basile va préférer retourner dans sa communauté ascétique à Annecy. Mais l'empereur, qui est à l'époque l'empereur Valens, dont on a déjà parlé aussi, 364-378, veut imposer l'arianisme. Et Basile va revenir à Césarée pour soutenir, disons, l'évêque de Césarée, et aussi sous la pression de son ami de toujours, Grégoire le théologien. Déjà, on voit que Basile a une personnalité, a une importance, a un poids spécifique assez fort, parce qu'il va s'opposer à Valens. En 368, la sécheresse va frapper la Cappadoce. Donc, vous voyez, la Cappadoce, on en a parlé tout à l'heure, hein, la Cappadoce, voilà la Cappadoce, donc c'est le centre de la Turquie, c'est une région montagneuse, c'est une région qui est isolée de la mer relativement, et ce qui rend tout ravitaillement difficile. Ce n'est pas une région très riche, et donc, la famine, si vous voulez, frappe beaucoup plus durement la Cappadoce qu'elle ne frappait un pays comme l'Égypte, par exemple. Et c'est ce qui explique aussi, si vous voulez, que les Cappadociens, en général, vont avoir une attitude beaucoup plus ferme et de condamnation beaucoup plus dure vis-à-vis des riches, d'autant plus que les richesses étaient complètement disproportionnées. D'autant, et aussi, les grands propriétaires ne vont pas se priver de spéculer, c'est-à-dire de garder du grain pour leur vendre plus cher, etc. Bon. Donc il y a un discours fameux de Basile là-dessus, c'est le discours 43. Il va commencer à disons, venir à secourir la population, distribue du pain gratuitement, et il va donc avoir toute une action que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'humanitaire, mais que lui-même qualifierait de justice. À la mort de Zeb en 370, le diocèse est profondément divisé. Il y a un nouveau patriarche à Constantinople, l'empereur persécute les évêques orthodoxes, mais Basile va quand même, en raison de toujours cette espèce d'importance qu'il a eu de poids spécifique, va quand même être élu évêque. Il va être aidé en cela par le père de son ami Grégoire le Théologien, Grégoire l'Ancien. Son élection est difficile. Et évidemment, le clergé est divisé. L'empereur et l'administration penchent pour l'arianisme. Et donc, Basile est dans une situation compliquée. D'autant plus que les corps évêques qui devraient plutôt l'aider, apparemment se livrent à des abus qu'il devra contrôler. Les différents buts de Basile sont clairs. Rétablir l'orthodoxie, rétablir la communion et les relations avec Rome, organiser les évêchés et créer des institutions qui viennent en secours à la population. C'est une époque aussi où toute la région est soumise à des réformes. Je vous passe cet aspect-là. Il va se tourner aussi vers Athanase, Athanase d'Alexandrie. Et il lui demande même d'envoyer des émissaires pour lui expliquer la situation. Il va chercher aussi un soutien en Occident. Effectivement, à Antioche, la situation est assez compliquée. Vous avez plusieurs, en fait, patriarches. Les Ariens font élire Mélès, mais en fait, celui-ci, bon, va défendre une ligne plutôt orthodoxe. Seule une fraction veut refuser de le reconnaître. Un autre évêque va conférer l'épiscopat à un certain Paulin. Bref, Antioche va avoir deux évêques. Athanase, à ce moment-là, envoie un prêtre pour informer que Basile, pour qu'il prenne connaissance de la situation dans laquelle se trouve Basile, et le pape va envoyer aussi des légats. En fait, ces opérations n'aboutiront pas. En revanche, ce qui va aboutir, c'est un projet assez important dans lequel Basile va se lancer, c'est de venir en aide aux plus démunis. Il se trouve que il va mettre en place, il va construire une institution que Grégoire le théologien appellera grenier de la bonté, et bien vite le peuple même va lui donner un autre nom, la Basiliade, qui est en fait une véritable petite ville. Il y a non seulement des infirmiers et des médecins pour soigner les malades, mais il y a aussi des bêtes de somme et des gens d'escorte pour accompagner les marchands. Basile y ajoute les métiers nécessaires à la vie, ça devait être des boulangers, des cuisiniers, etc. Des ateliers donc, qui fournissent du travail aux pauvres et aux nécessiteux. Mais Basile va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il va développer son système à l'intérieur de l'ensemble de la Cappadoce et de la Turquie actuelle. Il va créer des basilias, des institutions. Évidemment, bon, certains vont critiquer aussi le fait que Basile fonde ses institutions en disant qu'il cherche à étendre son influence. C'est sozomène dans l'histoire ecclésiastique. L'installation de ces basiliades sera à l'origine d'une dispute d'ailleurs entre Basile et Eustathe, l'évêque de Sébaste, mais il va y avoir une violente dispute entre les deux hommes que finalement, donc, la rupture va se faire avec Eustate. Depuis longtemps, d'ailleurs, les conceptions d'Eustate sont critiquables. Il remet en cause la divinité du Christ, et il remet en cause la divinité de l'Esprit. Basile essaye de faire revenir Eustate sur ses positions, lui demande de venir à une réunion, où un rendez-vous est pris avec lui, mais il ne vient pas. Basile lui-même va être accusé d'hérésie par certains, calomnié par les ultra-nicéens, pour expliquer pourquoi un petit peu. Basile était un homme profondément nicéen, mais c'était aussi un grand pasteur. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à heurter les gens de front. Il savait que c'était des choses compliquées, difficiles à expliquer. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le vocabulaire n'était pas encore solidement fixé, qu'il fallait expliquer tout ça. Il y avait toute une pédagogie à avoir, une pédagogie pastorale. Et il comprend. Si vous voulez, quand on n'explique pas clairement, les gens n'ont pas, parfois pas une idée claire de ce qu'il voulait dire. Et donc il faut faire tout un travail d'explication. Et on va lui reprocher cette attitude. Basile n'est pas quelqu'un de cassant. Par exemple aussi, dans son traité sur le Saint-Esprit, il ne va pas dire tout de suite que l'Esprit-Saint est Dieu, mais tout son traité tend à le démontrer. C'est donc il y a une pédagogie aussi dans ses œuvres qui évidemment ne peut déplaire à certains qui sont un petit peu extrémistes. On va dire par exemple que Basile ne proclame pas franchement la vérité, ce qui est pour le moins excessif. Donc c'est une situation confuse avec les Ariens qui sont toujours là, l'empereur Valens qui va s'attaquer à la Cappadoce, Basile va lancer des appels au secours, la confusion va croître quand Vital, qui était un prêtre attaché à Mélès, qui était l'évêque, va défendre des idées apollinaristes. Qu'est-ce que c'est que Apollinaire ? Apollinaire, c'est encore un autre courant, un courant particulier, qui avait caricaturé en quelque sorte la théologie défendue par saint Athanase. C'est ce qu'on appelle la théologie du logos sarx. Logos, c'est le logos, c'est le verbe. Sarx, c'est la chair. C'est-à-dire une théologie qui ne donne pas à la personne humaine du Christ véritablement une âme et une personnalité complète. Donc c'est une simplification, on peut dire une schématisation de la pensée d'Athanase. On va parler de cette théologie logos-sarx à laquelle on va opposer une autre théologie, la théologie logos-anthropos, c'est-à-dire qui tient compte de l'ensemble de la personne humaine. Donc nous sommes vraiment dans une situation difficile, les occidentaux sont appelés à l'aide, ils leur demandent de condamner Eustate qui rejette le consubstantiel. Apollinaire, lui de son côté, écrit ses élucubrations. Bon, et la guerre va précipiter les choses parce qu'il va y avoir une révolte en Thrace. Les Goths qui sont installés dans l'Empire vont se révolter. Et à ce moment-là, l'empereur Valens, en 377-78, va gracier tous les évêques nicéens. Et donc, il faut sauvegarder l'Empire. Valens meurt en 378 et Basile va mourir peu après. En 381, Théodose va réunir un concile qui confirmera que le Fils est de même nature que le Père et que le Saint-Esprit est Seigneur, c'est-à-dire Dieu. Donc, en parcourant la vie de Basile, on se rend compte de la tragédie qui a été en fait le IVe siècle. La foi affirmée à Nicée a été rejetée très rapidement. Arius a été réhabilité. De multiples formules ariennes ont été proposées. Le doute s'étend de la personne du Christ à celle de l'Esprit. Basile va être plongé dans cette situation. Et il va sans arrêt essayer de négocier. Il va organiser la vie ascétique. Il va venir en aide aux nécessiteux, développer ses basiliades. Et il va avoir toute une action, aussi bien dans le domaine de la vie ascétique, où il va promouvoir des formes de vie, que aussi dans le domaine dogmatique. Ces œuvres ascétiques, donc, on a vu qu'elles sont inspirées de Pacôme, mais ces œuvres ascétiques sont très souples, c'est-à-dire que ce n'est pas des règles au sens occidental, ce n'est pas des lois et des préceptes, mais plutôt un ensemble de conseils, souvent pratiques. C'est la compilation de remarques émises lors de rencontres avec des moines qui posent des questions et auxquelles ils répondent. Pour Basile, la vie ascétique est le couronnement du baptême, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous les baptisés. Dans une de ses lettres, sa lettre numéro 2, il va insister sur un aspect de la vie ascétique. C'est ce qu'on appelle l'ésychia, H-E-S-Y-C-H-I-A. L'ésychia, ça veut simplement dire en grec la tranquillité. Qu'est-ce que ça veut dire l'ésychia? Ça veut dire la tranquillité aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pour avoir la tranquillité à l'extérieur, il faut en quelque sorte s'isoler relativement du monde. Comme dit le Christ, si on veut prier, il faut fermer la porte. Ensuite, l'ésychia, c'est aussi la tranquillité intérieure. Et Basile va toujours insister sur le combat spirituel, la lutte spirituelle et la lutte contre les passions. Et pour lui, ce combat spirituel est une condition sine qua non. C'est-à-dire que c'est que par ce combat, que par cette lutte, que peut se produire la participation avec les énergies de l'Esprit-Saint. Il impose des règles, mais ces règles sont en fait assez souples. Modération dans les échanges, par exemple. La nourriture, par exemple. La nourriture, eh bien, il s'agit simplement de satisfaire des besoins, donc c'est tout, il ne faut pas aller plus loin, un seul repas suffit. Le travail spirituel, la prière, et surtout la prière nocturne. Ce qui domine, donc, c'est une vision, pratique, une vision adaptée, une vision qui permet à tout un chacun de mener une vie spirituelle, sans excès et qui contraste fortement, par exemple, avec les excès de Eustache de Sébaste. Les règles morales qu'il va écrire sont souvent inspirées par le même esprit. Il explique qu'il a toujours voulu s'adapter à ses interlocuteurs en utilisant des formules, je le cite, suivant les nécessités des malades. Et donc, ces formules sont souvent non scripturaires et cependant non étrangères au sens correct de l'écriture. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à employer des termes non scripturaires lorsqu'elles sont dans le sens de l'écriture et lorsqu'elles sont adaptées aux personnes qu'il rencontre. Donc il y a une certaine souplesse toujours chez Basile qui est très grande. Cependant, il insiste sur le fait qu'il nous faut faire attention de ne pas tomber dans des débats abstraits et des débats philosophiques, et qu'il faut le plus possible s'appuyer sur les Écritures. Les règles qu'il va promouvoir, ce sont essentiellement des citations du Nouveau Testament, de l'Évangile, des lettres de saint Paul regroupées par thème, la pénitence, le commandement de l'amour de Dieu et du prochain, l'unicité de la foi, et les derniers chapitres sont consacrés aux différents états de vie, mariage, veuvage, virginité. Basile suit l'enseignement de saint Paul. Un long ensemble de recommandations, clauses et règles morales, c'est un véritable portrait global qu'il va dresser de la vie chrétienne. Et quel est le sens profond pour lui du chrétien? À cela, il répond de plusieurs façons, mais ce qui caractérise le chrétien, c'est de s'aimer l'un l'autre comme le Seigneur nous a aimés. Le propre du chrétien, c'est d'avoir le Seigneur toujours présent devant les yeux. Donc ce n'est pas, vous voyez, c'est la caractéristique de Basile et de sa spiritualité, ce n'est pas d'avancer des règles ou des choses contraignantes, non, c'est pas ça. C'est d'être dans l'esprit de l'Évangile, d'être en présence du Christ et d'agir en fonction de cela. Je n'insiste pas trop là-dessus, je voudrais parler maintenant un petit peu de son aspect de ses œuvres doctrinales. En 360, Basile accompagne comme lecteur donc son évêque au concile de Constantinople. En 359, on sait la formule de Rimini dont on a déjà parlé, qui est une formule arienne, qui parle d'une ressemblance entre le Père et le Fils. Et on peut dire qu'à cette époque, c'est un peu l'opinion dominante, et saint Jérôme pourra écrire « Alors fut supprimé le mot oussia, substance, alors fut proclamé la condamnation de la foi de Nicée, le monde entier s'étonne et gémit d'être arien. » Face à cette querelle arienne, et Basile va s'en prendre à l'un des chefs, pourrait-on dire, du courant le plus opposé au courant nicéen, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les anoméens, c'est-à-dire qui expliquent qu'il y a une dissemblance entre le Père et le Fils. Et celui qui va expliquer tout ça, c'est un certain Eunome. Eunome est un homme habile, et au concile de Constantinople, il va faire une présentation habile de sa foi. Son apologie, où il va se dissimuler, prétend s'appuyer sur des formules de l'Évangile, mais elles sont tellement générales qu'elles ne peuvent pas être condamnées. Par exemple, il dit: nous croyons en un seul Dieu Père Tout-Puissant de qui tout vient, et en un seul Fils monogène, c'est-à-dire Fils unique de Dieu, Dieu Verbe, notre Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe, et en un seul Esprit Saint, le Paraclet, en qui toute grâce est répartie. Donc c'est parfaitement inattaquable. Il est tellement général qu'il n'y a rien à dire, si vous voulez. Alors que derrière, ce qu'il met derrière, c'est tout à fait différent. Et il va développer d'ailleurs quand même son point de vue en expliquant qu'il va partir de la notion d'inengendré, qui est pour lui la notion distinctive de la divinité. Le Père est inengendré, Dieu est inengendré, Dieu n'avait pas d'origine sur la nature, et il poursuit en excluant de l'inengendrer, ça c'est vraiment un raisonnement philosophique, toute possibilité d'engendrer, car cela se ferait par départition, par division, ce qui est une absurdité, même un blasphème. C'est-à-dire qu'on est au niveau, voilà, vraiment, de la pensée philosophique. Et alors, il part d'une conception aussi un peu étrange, c'est que le nom, lorsqu'il désigne un objet ou une personne, a une relation avec l'essence de l'objet ou de la personne. Donc, connaître le nom, c'est connaître aussi cette essence. En fait, avec toutes ces circonvolutions, on aboutit au fait que le Fils est une créature et que l'Esprit est une créature du Fils. Le Fils est en lui-même une créature du Père. Il évite évidemment le mot dissemblable, anomios, qui est évidemment mal reçu. L'ouvrage que va rédiger Saint Basile est un ouvrage de réponse, un ouvrage très construit et qui est très profond. Il explique que le Christ est Dieu et Sauveur et qu'il ne peut pas, au fond, être vraiment Sauveur s'il n'est pas Dieu. Et que c'est la grâce du baptême qui illumine toute l'existence humaine. Donc, en fait, ça c'est caractéristique de Basile, il ne parle pas de théorie abstraite. Il dit, voilà, vous avez le baptême, dans le baptême, vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême vous introduit à la participation à la vie divine. Si ni le Père, ni le Fils, ni l'Esprit sont divins, vous ne pouvez pas participer à la divinité, tout simplement. Donc, ce qui est là au centre de la pensée de Basile, c'est très simple, c'est la vie chrétienne. C'est le sens même du christianisme. Et le baptême est au centre de la vie chrétienne. C'est par le baptême que nous avons accès à Dieu. Et ce n'est pas par hasard non plus si Basile reprendra plus tard un des ouvrages contre le baptême. Je ne vais pas trop insister là-dessus, disons simplement qu'il n'a pas trop de mal. D'abord, il a contrecarré Eunome. Le terme inengendré n'apparaît pas dans les Écritures, dit-il. Que Dieu est appelé et caractérisé de différentes façons, par ses activités, on peut l'appeler lumière, on peut l'appeler vigne, on peut l'appeler pain, mais ce sont des caractéristiques qui ne concernent pas la substance même de Dieu. Et donc c'est là où il fait jouer, où il parle, lui, de l'unité de la substance de Dieu. Il fait remarquer aussi qu'un terme négatif ne veut pas définir une substance. Donc, Basile part de l'unité de la substance divine, établit des distinctions entre les personnes à partir des propriétés caractéristiques de chaque personne. Et là, on voit, quand on lit ses lettres, on voit toute sa théologie, sa réflexion, son élaboration qui se met en place. Dans les traités contre Nome, on voit effectivement la progression de cette pensée. Dans le deuxième tome, il explique par exemple qu'il n'y a pas de lien entre le nom et la substance, que vous appelez Pierre, vous appelez Paul, mais que ce sont des noms qui sont effectivement différents, mais que vous êtes de même nature, que la nature humaine, elle, reste identique dans chacun. Donc, ce qu'il va mettre en place, si vous voulez, progressivement dans sa pensée, c'est l'unité de la substance divine et la différence qui existe entre les caractéristiques ou les propriétés. La notion du Père, la notion de Fils sont des caractéristiques, des propriétés qui définissent des différences réelles mais qui sont aussi des corrélatifs. C'est-à-dire que l'on ne peut pas penser le Père sans penser le Fils. Et ça, pour l'éternité. Pour illustrer l'éternité du Fils, Basile va avoir recours à un argument, entre autres, plusieurs arguments, mais un argument qui compte beaucoup pour les pères, c'est l'argument des théophanies, c'est-à-dire des manifestations divines, dans l'Ancien Testament. Et effectivement, n'oublions pas que pour les pères, toutes les manifestations divines dans l'Ancien Testament sont essentiellement des manifestations du Fils, des manifestations du Verbe. Et la fameuse manifestation dans le buisson ardent, où Dieu explique « Ego eimi o on »,« Je suis celui qui est et qui ne cesse d'être », eh bien, c'est le Christ qui parle. Et je vous rappelle que sur les icônes du Christ, nous avons ce « O on », et qui est repris d'ailleurs dans le début de l'évangile de Saint Jean, qui est une allusion à ce passage de l'Exode, Exode 3,14, où il y a cette révélation de Dieu. Je vous rappelle aussi que c'est le Christ qui le dit. Il montre, après sa résurrection, c'est à le disciple de Jéricho. Enfin bref, donc il chemine avec des disciples qui sont un peu décontenancés par sa mort. Et le Christ leur parle, et le texte de l'Évangile explique, il leur montra tout ce qui le concernait dans la loi et les prophètes. La loi, c'est quoi? C'est le Pentateuque, pour les Juifs, c'est les cinq premiers livres de Moïse, et les prophètes, donc c'est ce qui suit. Donc, ça veut dire que tout ce qui le concernait, lui, le Christ. Donc, si vous voulez, la catégorie sur laquelle se réfère Eunome est une catégorie qui fait allusion à une propriété et non pas à l'essence. Et il explique telle est la nature des propriétés engendrées, inengendrées, c'est de montrer l'altérité. Il y a une altérité. Une altérité de personne dans une unité de substance, dans une identité de substance. Et voilà, donc on arrive progressivement à la notion donc d'hypostase telle qu'il entend. Là, évidemment, il faut faire attention avec tout ça, il faut manipuler ces notions avec précaution. En elles-mêmes, les propriétés se distinguent souvent les unes des autres, en s'opposant et elles s'écartent, jusqu'à former des contraires, mais elles ne déchirent pas l'unité de la substance. C'est-à-dire que la substance, l'essence, reste toujours une, quelle que soit la propriété. C'est-à-dire que la totalité de la substance, si vous voulez, est présente dans le Dieu Père, comme elle est présente dans le Dieu Fils, comme elle est présente dans le Dieu Esprit. Troisième livre. Donc vous avez un chef, vous voyez que dans ces livres de contre-nomes qui sont assez remarquables, vous avez le Père, premier livre, le Fils, deuxième livre, troisième livre, l'Esprit. Et dans le troisième livre, il va mettre en avant la sanctification. Cette sanctification se réalise par le fait que l'Esprit habite en nous, ce qui équivaut à l'inhabitation de Dieu, puisque les trois personnes sont invoquées lors du baptême. Donc, je ne vais pas trop insister là-dessus. Son traité est assez remarquable. Il répond point par point. Il reprend les arguments de Eunome, il les contre les uns après les autres. Mais Eunome va réagir en composant, donc, il avait composé son apologie dans laquelle il expliquait son point de vue. Il va réagir au contre-nome par une apologie de l'apologie. Basile va quitter ce monde et c'est Grégoire de Nice, Saint Grégoire de Nice, qui va continuer donc l'œuvre de Saint Basile à bien des égards. D'ailleurs, il va être un prolongateur de l'œuvre de Saint Basile. Il est intéressant de suivre dans la correspondance de Basile la progression de sa pensée. Par exemple, il va écrire une assez longue lettre à son frère Grégoire de Nice sur la distinction entre substance et hypostase, qui est très intéressante. Si vous avez l'occasion, jetez un œil. D'ailleurs, je mettrai en ligne un choix de textes. Mais les lettres de Saint Basile, c'est vraiment intéressant à lire. Et il va recourir à une explication simple. Il y a deux différentes couleurs. Vous avez des couleurs différentes, mais vous n'avez pas de nature différente. Il s'agit toujours de couleurs, par exemple. Dans notre exemple, la substance qui répandait cet éclat multicolore était une, celle qui était réfléchie par les rayons solaires, mais la fleur de ce qui apparaissait avait de multiples aspects. C'est la lettre 38. La raison de la communauté se réfère à la substance, l'oussia, et l'hypostase est le signe propre de chaque particularité. Il va donc continuer à développer son point de vue, et dans son éloge de Basile, Grégoire le théologien va rappeler une donnée fondamentale, les disciples de Eustate rejetaient la divinité de l'Esprit-Saint. Et pour asseoir en quelque sorte la notion de consubstantiel, Basile va s'orienter vers une formule liturgique, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ça, c'est la force de Basile, c'est-à-dire de toujours partir de choses simples, vécues par les fidèles, liturgiques, pas des raisonnements abstraits, et qui expriment en quelque sorte un consubstantiel, une notion de consubstantiel. En 375, il va être l'objet de critiques très violentes, et en particulier, il va être accusé, on en a déjà parlé, de sabellianisme. Qu'est-ce que c'est que le sabellianisme? Le sabellianisme, c'est le fait de dire qu'il n'y a en fait qu'une essence, et cette essence se manifeste tantôt sous un aspect, tantôt sous un autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de personne. Et dans une lettre, il va expliquer « Cette fiction des personnes sans hypostase, Sabellius lui-même ne l'a pas rejetée, puisqu'il dit que le même Dieu, bien qu'il soit un par le sujet, se transforme chaque fois suivant les besoins qui se présentent, et qu'il parle tantôt comme Père, tantôt comme Fils, et tantôt comme Esprit-Saint. » Donc, évidemment, il faut confesser les trois hypostases. Dans ses lettres, il va continuer à développer la même idée, en expliquant aussi que le rapport entre substance et hypostase est comparable à celui qui existe entre ce qui est commun et ce qui est particulier. Chacun de nous participe à l'être par le principe commun de la substance, et il est un tel ou un tel par ses caractères propres. Et c'est dans ce climat de division que Basile va écrire son chef-d'œuvre, c'est-à-dire le traité du Saint-Esprit. La bataille fait rage, on reproche à Basile toutes sortes de choses, on dit qu'il est polythéiste, on dit qu'il est sabellien, etc. Et il va partir de la formule « gloire au Père avec le Fils et le Saint-Esprit » pour mettre en valeur l'unité de substance de la divinité. C'est donc une erreur de compter l'Esprit dans la création, lui qui est compté dans la divine et bienheureuse Trinité. De plus, l'Esprit, c'est celui qui sanctifie, la sanctification réalisée dans les créatures célestes et la sainteté présente dans l'Esprit. Chez lui, la sainteté est nature, c'est-à-dire que la sainteté dans l'Esprit est quelque chose qui relève de la nature et est contemplée dans les trois hypostases. Le traité du Saint-Esprit lui-même va se diviser en 30 chapitres, mais il est organisé en quatre grandes parties qui vont s'appuyer chacune sur des arguments un peu différents. La première partie, c'est l'argument de l'homotimie, c'est-à-dire la même gloire, le même respect, la même vénération. Quand on dit gloire à Dieu, le Père, par le Fils dans le Saint-Esprit. Et il va à ce moment-là étudier l'Écriture, montrer l'utilisation qui est faite des différentes prépositions et montrer aussi l'unité de substance des trois personnes. Mais s'il est juste de préciser que c'est par le Fils que le salut arrive aux hommes, il est tout aussi exact de rappeler que, comme Dieu est Fils, il possède la gloire avec le Père et en même temps que lui. Toute cette démonstration qui servira pour le Fils servira par la suite pour le Saint-Esprit. Car l'homotimie, donc une fois démontrée pour le Fils, va être démontrée de la même façon pour le Saint-Esprit. Et la deuxième partie, c'est le fait que le Saint-Esprit sanctifie ou divinise l'homme. Lui qui, comme un soleil, s'emparant d'un œil très pur, te montrera en lui-même l'image de l'invisible, dans la bienheureuse contemplation de l'image, tu verras l'indicible beauté de l'archétype. Et là, il va rattacher évidemment au Saint-Esprit ce qui fait le cœur du christianisme, si on peut dire, c'est le baptême. C'est par le baptême nier la place de l'Esprit dans la formule baptismale, c'est nier le baptême, tout simplement. Donc si on ne reconnaît pas que l'Esprit est Dieu, si on ne reconnaît pas que le baptême donne à la personne, au baptisé, les arts de l'Esprit Saint, qu'ils vont lui permettre de mener une vie chrétienne, qu'ils l'introduisent dans le processus de la divinisation, le baptême n'a aucun sens. Tout simplement. C'est très grave cette question, parce que, au fond, quel est le sens qui est donné au baptême ici et là? Comment sommes-nous chrétiens? Par la foi, tout le monde le dira. Mais de quelle manière sommes-nous sauvés? Parce que nous sommes renés d'en haut, évidemment par la grâce du baptême. Dans une troisième partie, il va reprendre un peu l'histoire du salut. Jusqu'alors, on attribuait à chaque personne une fonction un peu spécifique, mais cette démarche spécialise trop chacune des personnes, et il va préciser l'acte du Père qui opère tout en tous n'est pas imparfait dans son acte, ni le Fils défectueux dans son activité créatrice, à moins que l'Esprit ne le perfectionne. C'est-à-dire que tout acte au niveau des personnes divines est du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. La créature reçoit la sanctification d'ailleurs, mais pour l'Esprit, la sainteté est l'élément essentiel de la nature. De sa nature. Et dans sa quatrième partie, il va reprendre, formules liturgiques. Par la suite, il apportera des précisions ultérieures, par exemple, une distinction entre la personne et la substance, lui permet aussi de répondre à certaines objections contre la divinité de Christ, puisque le Christ lui-même dit par exemple, donne-moi à boire. C'est d'ailleurs qu'il va montrer qu'il y a des textes, des passages de l'Évangile qui, disons, relèvent de l'humanité du Christ et non pas de sa divinité, et qu'elles ne mettent pas en doute sa divinité. Le Christ a donc, et non seulement elles ne mettent pas en doute sa divinité, mais ça va beaucoup plus loin. Il dit, le Christ a donc accepté les affections humaines pour donner la certitude d'une incarnation réelle et non pas apparente. C'est ainsi que le péché a été supprimé par la justice qui est dans le Christ Jésus. Ça va très loin. Ça veut dire que c'est parce que le Christ a assumé pleinement la nature humaine qu'il a pu vaincre le péché, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il a ouvert la voie, en quelque sorte, à l'homme qui, par la participation à la vie divine, peut, à ce moment-là, marcher dans les pas du Christ. Comment les fruits de l'incarnation ont-ils passé en nous, si ce n'est par notre corps, uni à la divinité, qui a maîtrisé l'empire de la mort. Donc, ce texte est quand même quelque chose de tout à fait remarquable, qui se fonde essentiellement sur la pratique du peuple de Dieu, la pratique de ce qui est promulgué dans les formules du culte. Basile parle de l'unité de Dieu pour en fait arriver aux personnes, et la grande force en quelque sorte de Basile, c'est de montrer que ce qu'il dit, c'est rien de nouveau, mais c'est ce que l'on a toujours en fait vécu et cru. Et je voudrais terminer simplement en citant rapidement, parce que le temps me presse un peu, quelques textes de Basile. Je n'insiste pas trop. Donc, il va distinguer ce qui est propre et ce qui est commun. Je récapitule. Vous avez donc l'oussia, l'essence, qui n'est jamais une essence abstraite, mais qui est toujours une essence concrète, puisque c'est l'essence de Dieu. C'est la substance divine existante. Vous avez les caractères et propriétés de chaque personne, le fait que Dieu est Père, que le Fils est Fils, que l'Esprit Saint soit Esprit. Vous avez aussi, propre à chacune de ces personnes, la relation, en quelque sorte, ce qu'on va appeler aussi le mode topos eparxéos, c'est-à-dire le mode de son existence. Le Père est sans cause, il engendre le Fils, et, disent les théologiens occidentaux, il spire l'Esprit. Évidemment, le mode de venue à l'existence de l'Esprit est difficile à exprimer, parce que dans la pensée normale, grecque, etc., vous avez deux modes de venue à l'existence, soit par création, soit par génération. Or, l'Esprit ne se dit dans aucun de ces deux modes, puisqu'il s'agit du souffle de la divinité. Ce qu'il faut aussi bien comprendre dans tout ça, c'est que vous avez la monarchie du Père. Le Père, qu'est-ce que ça veut dire, la monarchie? Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul principe. Archi. Archi, c'est le principe. C'est-à-dire que c'est le Père qui structure, en quelque sorte, la Trinité. Du Père, le Père qui engendre le Fils, le Père qui spire l'Esprit, ceci de toute éternité, c'est-à-dire que, bien évidemment, comme Arius disait, oui, mais puisqu'il engendre le Fils, il y a un moment où le Fils n'était pas, c'est ridicule, puisqu'il ne s'agit pas là du niveau humain, mais nous sommes au-delà du temps, de toute éternité, Le Père engendre le Fils, inspire l'Esprit. Donc les personnes se définissent essentiellement par des caractéristiques, des caractères qui leur sont propres, et l'hypostase, en fait, est constituée par ces caractères. Et l'hypostase ne divise pas l'essence, qui reste une. Évidemment, il faut quand même remarquer que dans son traité, Basile n'aime pas beaucoup employer le terme ousia, parce que c'est un terme qui est un peu abstrait. Pourquoi ? Parce que dans la pensée grecque philosophique, l'ousia, c'est ce qui est commun. Et si on peut prendre, si vous voulez, quand je parle de l'homme, l'homme n'existe pas en fait. Il n'y a que des hommes. Ça, c'est la vision aristotélicienne. Pour Platon, si vous voulez, il y a une idée transcendante de l'homme. Pour Aristote, non. Donc, le fait d'utiliser le terme ousia gêne, si vous voulez, Saint Basile, qui a une formation philosophique très solide, parce que ça pourrait laisser supposer qu'à ce moment-là, l'essence ou la substance est quelque chose d'abstrait. Or, c'est le contraire, puisqu'il s'agit de la substance concrète de Dieu. Donc, il préfère employer le terme physis, nature. Aussi, dans son traité, donc, vous avez cette idée de la participation humaine, de la participation de l'homme à Dieu, qui est exprimée, et qui suppose une ascèse. L'homme charnel, dit-il, en effet, qui n'a pas exercé à la contemplation la partie haute de son âme, laquelle se trouve plutôt tout entière enfouie comme en un bourbier, dans les pensées de la chair, n'arrive pas à lever les yeux vers la lumière spirituelle de la vérité. C'est pourquoi le monde, c'est-à-dire la vie esclave des passions charnelles, ne reçoit pas plus la grâce de l'esprit qu'un œil malade la lumière solaire. Il est donc indispensable de faire cet effort de purification, cet effort d'ascèse relative, pour participer à cette lumière de l'esprit. Et dit-il, quand sous l'influence d'une force illuminatrice, on fixe les yeux sur la beauté de l'image du Dieu invisible et que par elle on s'élève jusqu'au spectacle ravissant de l'archétype, l'esprit de connaissance en est inséparable, donnant en lui-même la force de voir l'image à ceux qui aiment regarder la vérité. Il ne le fait pas découvrir de l'extérieur, c'est en lui qui l'amène à le reconnaître. Dans ta lumière, nous verrons la lumière. C'est le verset du psaume, en to photi sou, opsometa to phos. Psaume 35, 10. C'est-à-dire dans l'illumination de l'esprit, nous verrons la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Jean 1, 9. Ainsi est-ce en lui qu'il montre la gloire du monogène et en lui qu'aux vrais adorateurs, il donne la science de Dieu. Donc, cet esprit est porteur aussi d'une connaissance, est porteur d'une science qui est particulière. Il va elle-même, Basile n'hésite pas à employer le terme de gnose, au sens chrétien du terme. Cette gnose nous est donnée. Ce n'est pas quelque chose qui est comme pour les gnostiques est limité à quelques initiés, etc. Non, cette gnose qui est donnée, qui est offerte aux chrétiens par le baptême, c'est-à-dire dans l'illumination, dans l'esprit, nous verrons la lumière, ainsi est sans lui qu'il monte la gloire du monogène, et qu'en lui les vrais adorateurs, il donne la science de Dieu. Cette force illuminatrice n'est donc pas une lumière projetée par l'esprit de l'extérieur, pour ainsi dire sur le Fils, afin de le manifester. C'est en lui-même, comme esprit de vérité, qu'il fait resplendir la vérité, et comme esprit de sagesse, il révèle dans sa propre grandeur le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Dans sa propre dignité, il manifeste la majesté de celui dont il est sorti. Donc le chemin de la connaissance de Dieu va de l'esprit qui est un par le Fils qui est un jusqu'au Père qui est un. Et en sens inverse, la bonté naturelle, la sainteté de nature et la dignité royale s'écoulent du Père par le monogène jusqu'à l'Esprit. Ainsi confesse-t-on les hypostases sans battre en brèche la pieuse doctrine, dogma, parce que ça fait allusion au concile de Nicée, de la monarchie, c'est-à-dire du fait que le Père est seul principe de la Trinité. Je vous remercie.